Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, première de deux émissions aujourd'hui sur un personnage qui n'est pas très connu et qui a pourtant grandement contribué à plusieurs aspects de l'Église orthodoxe de l'époque moderne. Il s'agit de l'archevêque Siméon de Thessalonique, né à Constantinople dans la deuxième moitié du XIVe siècle et mort à Thessalonique en 1429, mais inscrit seulement en 1981 dans les livres liturgiques de l'Église comme saint. Pour parler de saint Siméon, nous recevons le père Sébastien Garnier, prêtre à la paroisse de la Dormition à Marseille, professeur de lettres classiques et spécialiste de cet auteur. Père Sébastien, Siméon de Thessalonique est quelqu'un que vous connaissez bien. Vous lui avez consacré votre thèse de doctorat à l'École pratique des hautes études et il a constitué le sujet de votre séminaire à cette institution pendant 3 semestres. Alors, pour cette première émission, nous allons parler de sa vie et de son œuvre dans un contexte historique assez trouble.
En effet, Siméon est à la fois très connu et pas connu du tout. C'est-à-dire que pour un public d'historiens, de spécialistes, c'est la référence inévitable. Quand il s'agit de connaître les réalités liturgiques du monde byzantin qu'il a consigné, dont il a laissé une somme importante, mais en Occident, c'est vraiment réservé à un public de spécialistes. C'est-à-dire qu'on a accès à ce qu'on appelle la patrologie des Grecs, en grec et en latin. Donc c'est compliqué d'y accéder, d'où l'intérêt que nous avons eu pour cet auteur, pour mieux le connaître et le faire connaître en français.
Et donc l'attente de la publication de votre thèse, enfin c'est un texte sur lequel vous avez travaillé, sur lequel on va revenir dans 15 jours, qui va apparaître dans la collection des sources chrétiennes, mais on sait que le travail d'édition est un travail qui est long. Bon, donc d'où l'intérêt aussi de cette émission pour présenter un auteur qui compte tellement dans les vies de l'Église et on ne le sait pas. Alors d'abord quelques mots sur la période qui est une période trouble comme on a dit, tant sur le plan politique que sur le plan intellectuel.
En effet, c'est la mi-temps du XIVe siècle, le début du XVe siècle à Constantinople, qui est la période des paléologues, une période brillante au niveau culturel, théologique, période très riche d'échanges avec l'Occident aussi et d'échanges d'idées. Toutefois, c'est vraiment l'époque où Byzance se réduit à sa peau de chagrin, où l'empire byzantin est éclaté en principauté, en despotat, donc très difficile unité territoriale. Et Siméon s'inscrit dans la lignée des évêques, des archevêques, qui comprennent que peut-être l'Église orthodoxe survivra à l'Empire et qui font un travail de conservation du patrimoine. Alors c'est quand même assez étrange parce que ils sont dans un mouvement de spéculation sur la fin des temps, l'an 7000 qui devait arriver. Donc il y a toute une frénésie sur le temps de la fin et en même temps le souci de conserver le patrimoine de l'Église orthodoxe. Alors l'écologie, l'hymnographie, l'écologie j'entends les prières, les offices, en gros la physionomie que l'Église orthodoxe a gardée, je parle de l'orthodoxie en général, grecque, slave, toute cette orthodoxie dépend de ces dernières années de l'Empire byzantin, de personnalités importantes qui ont fait le travail nécessaire de conservation.
Alors, Siméon de Thessalonique, parce qu'il a été plus tard archevêque de Thessalonique, mais on a dit qu'il était né à Constantinople, il vit, il grandit, il est élevé dans un milieu qui va compter beaucoup dans sa vie et dans son œuvre.
En effet, alors, là aussi, ce sont des sources indirectes qui nous ont permis de mieux connaître Siméon, parce que Siméon, c'était le grand inconnu des liturgistes, c'est-à-dire sa biographie est inconnue. Alors, ce qu'on a pu découvrir par divers moyens, c'est qu'il fréquentait un milieu forcément patriarcal, donc il doit être issu du milieu des clercs de la grande église de Constantinople à cause de la connaissance de la tradition canonique, de la connaissance historique, des rites. C'est quand même assez étrange. On a un embryon chez Siméon de pensée critique historique. C'est-à-dire qu'il place les rites dans non seulement dans une théologie, mais dans une histoire du rite. Ça, c'est assez nouveau, mais aussi c'est un moine qui fréquente un kélion, c'est-à-dire une petite communauté monastique faite de petits membres, donc les frères Xanthopouli en l'occurrence, qui vont, par leur fondation, créer un monastère par la suite. Et ce milieu, cette pépinière est très intéressante puisqu'elle rassemble des personnalités extrêmement diverses, des intellectuels comme les frères Sidonès, ceux qui ont introduit le thomisme à Constantinople, à Byzance, et qui ont été attirés par la Renaissance occidentale, mais on peut avoir des futurs zélotes comme Marc d'Éphèse qui s'opposera à l'union des églises byzantines et latines au concile de Florence. Et on a un Siméon qui a une position très étrange. En tout cas, à l'époque de sa vie monastique à Constantinople, il est connu par le futur patriarche Génat Scholarios, qui l'entend prêcher et qui trouve qu'il n'est pas forcément savant, qu'il n'insiste pas sur sa science, mais qui communique une énergie, qui communique un talent de... C'est un prêcheur, si vous voulez, preacher, comme on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il a vraiment une énergie, semble-t-il, pour attirer les gens autour de lui. Alors, c'est un milieu fréquenté par Manuel II, paléologue, l'empereur, également, qui fréquente le moine Macaire, qui est son père spirituel, qui lui est un juif converti, par exemple, qui sera l'exécuteur testamentaire de Manuel II, paléologue. Donc on a vraiment un monde divers. Siméon a pu connaître toutes sortes de pensées, pas uniquement la sienne, puisque quand même, Siméon est connu pour une pensée assez rigoriste de l'orthodoxie, des canons, de la liturgie, on pourra en reparler. Mais il a fréquenté un milieu très ouvert. Ça, c'est un point très important. On sait aussi qu'il s'appelle Siméon en l'honneur de Siméon Métaphraste, qu'il a été hymnographe, il a composé des hymnes, mais on ne sait pas qui sont ses parents, puisqu'on ne le connaît que comme moine.
Il y a un moment, élevé donc dans ce milieu imprégné d'esprit hésicaste, je dirais quand même, il faut le dire, hein, après Palamas... Il y a une influence très forte.
Alors, oui, n'oublions pas l'essentiel, les frères Xanthopouli vont être importants, notamment Calliste, qui deviendra patriarche, et qui va nous laisser deux ouvrages de spiritualité hésicaste, sous forme de centurie, hein, forme très connue dans le monde monastique, parce qu'elle permet l'apprentissage mnémotechnique. On a des centuries, et dans ces centuries, une référence très forte à Isaac le Syrien, donc une spiritualité christocentrique, très forte, basée sur l'union au Père spirituel, la lutte contre les pensées, et l'union à Dieu par la prière monologique, prière du cœur. Siméon laisse un témoignage important sur ces deux pères spirituels, puisqu'il atteste les avoir vus rayonner de la lumière taborique, bien sûr, avec toutes les prétérations d'usage, comme saint Paul qui parle d'un homme qui a vu. Donc, par ce témoignage, on comprend que Siméon a bénéficié d'expériences mystiques, pourrions-nous le dire, auprès de ces personnages-là, d'expériences fortes. Et c'est fort de tout cela qu'il devient une personnalité importante à Constantinople. Et contre toute attente, c'est ce qui va motiver le choix de Manuel II de le placer à l'archevêché de Thessalonique, ce qui va être un véritable drame pour Siméon, qui ne voulait qu'une vie monastique. En effet, peut-être qu'il faut revenir sur les aspects de Thessalonique, ville assez ingouvernable, puisque elle est éloignée, elle est séparée du pouvoir central, elle est sous les monts Ferrat, c'est-à-dire une dynastie savoyarde, mais je parle d'Anne Paléologue qui a épousé l'empereur, donc devenue orthodoxe, certes, mais ça devient une sorte d'apanage un peu indépendant et avec une très forte disparité sociale qui crée une crise politique sans précédent. On parlera d'un mouvement de zélotes, une presque république autoproclamée à la fin du XIVe siècle, ce qui fait que l'arrivée d'un archevêque nommé par le Saint-Synode de Constantinople et par l'empereur vont créer une résistance extrêmement violente de la part du peuple et de la part du clergé et de l'aristocratie locale.
Et il faut dire aussi que Thessalonique vit encore ces dernières années, je dirais, chrétienne, hein, parce qu'elle va, elle, tomber aussi, alors, enfin, changer, basculer.
Thessalonique a perdu plusieurs fois son identité chrétienne par des passages à l'islam d'une manière assez trouble. On ne sait pas trop ce qui s'est passé à la fin du XIVe siècle, mais il y a un épisode qui nous paraît un peu trouble, où on a l'impression que la ville devient ottomane. Puis, il y a une restauration par Manuel II, et à ce moment-là, sont les derniers feux, puisque en 1421, la ville, trop loin, peut-être d'un entretien trop coûteux pour les troupes impériales, va être cédée à la République Sérénissime, à Venise, qui rêve d'en faire la petite Venise des Balkans. Alors évidemment, pour la vénétocratie, c'est un... Il y a toute une vision de l'Empire qui se dégage. Thessalonique est un siège apostolique fondé par l'apôtre Paul. La Sérénissime possède la Crète. Il y a donc des échanges permanents, hein, on le sait, entre la Crète, le B, et Thessalonique, et Siméon se trouve au milieu de cette tractation dans laquelle il n'était pas prévu qu'un archevêque grec reste. Puisque le système politique est en vue par le Sénat de Venise, c'est un système des proto-papades, c'est-à-dire un système collégial synodal de prêtres qui gèrent les biens de l'Église et qui sont sous l'autorité, les biens spirituels, le temporel et le spirituel, et qui sont sous l'autorité d'un archevêque latin. Ce que Siméon refuse de manière extrêmement violente. Alors on a des scènes tout à fait pittoresques dans sa lettre encyclique où il nous raconte qu'il est apporté en litière au Sénat parce qu'il est très affecté physiquement par les tensions politiques de la ville. Il en tombe malade. Il nous parle de 7 ans alité. Alors cette année, c'est un chiffre symbolique. En tout cas, il a vécu une forte dépression par rapport à ses oppositions, ce qui l'a rendu malade. Il vient, il se bat, il va au Sénat, il obtient à peu près 22 clauses qui sont ratifiées par Venise, où l'Église grecque peut garder son archevêque et ses bâtiments. Sans aucun uniatisme possible, comme on appelle de communicatio in sacris. Il fait tout pour éviter ce genre de confusion. Toutefois, il est très respectueux des autorités vénitiennes, mais il préfère clarifier la situation canonique.
Donc, on va revenir après, on va aborder un peu les caractéristiques de son œuvre, mais auparavant, nous allons aller dans l'église, et évidemment, ce sont des moines qui chantent, parce qu'avec Siméon, on ne peut penser qu'à milieu monastique et liturgique. C'est un extrait donc de la Divine Liturgie de Saint Jean Chrysostome, le Trisagion, qui est chanté par les moines du monastère Xénophon au Mont Athos. Après cette entrée dans l'église du monastère Xénophon, on est vraiment pendant la divine liturgie, on entend les moines qui chantent, mais aussi l'encensement. On revient à notre entretien avec le père Sébastien Garnier sur Siméon de Thessalonique. Pour terminer sur sa vie, peut-être les conditions dans lesquelles il est mort, et puis c'est pratiquement un an avant la chute définitive.
Un an avant la chute. Ce qui a été vu par la population locale, toute origine confondue, comme un signe, un très mauvais signe. J'y reviendrai. Je n'ai pas indifférent d'avoir écouté le mot Athos, puisque Siméon a voulu fuir devant la situation qu'il avait créée, ou les difficultés qui s'annonçaient, il a voulu fuir au mot Athos, et à ce moment-là, comme il le dit lui-même, la sagesse venant de beaucoup de conseils, il a demandé au Hieronda du mont Athos le conseil, et à ce moment-là, la ville était encerclée par les troupes de Mourad. Donc, à ce moment-là, il voit un signe, il retourne vers sa métropole. Alors, pourquoi a-t-il voulu fuir ? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, j'ai déjà évoqué le fait qu'il ait été élu archevêque en 1416-17, c'est pas très clair. Il connaît bien, Simon connaît bien la situation, et il y va avec une idée très précise de restauration de la seconde ville de l'Empire. Alors, pour beaucoup de raisons, notamment une raison théologique, c'est la seconde ville de l'Empire, c'est une église apostolique fondée par l'apôtre Paul, et Simon est un antiquaire du rite, il est très sensible au rite qui est resté vivace à Sainte-Sophie, la cathédrale de Thessalonique. Il souligne que le grand rituel cathédral, l'asmatiki akoulouthi, l'office chanté, qui aurait un nombre important de clercs, un déploiement de fastes liturgiques phénoménal, a cessé à Constantinople à partir de l'occupation de 1204 jusqu'en 1260 et qu'on a perdu en quelque sorte la tradition locale de Constantinople qui, elle, survit à Sainte-Sophie de Thessalonique. Il y est extrêmement sensible, mais le peuple ni le clergé ne goûte ce rituel-là parce qu'il est très simple. On imagine toujours que l'office de Sainte-Sophie était extraordinaire au niveau hymnographique. En réalité, il est au niveau du personnel et du déploiement. Alors évidemment, cela a créé une résistance de la part du clergé, une sorte de grève, comme il y en a déjà eu à Sainte-Sophie de Constantinople. Le clergé refuse de participer à ces offices qu'il trouve trop longs et qui l'ennuient. Et Siméon, à un tour de main, il va réformer le rituel. Il va intégrer à cet office qui paraît très austère, très peu fourni en hymnographie, il va intégrer à des endroits particuliers une hymnographie qui provient d'un autre type du rite byzantin, celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est la première réforme. Il veut mettre un bon ordre dans les églises et il veut un renouveau de la pratique sacramentelle. Il est de plus le conseiller du despote Andronique, c'est-à-dire qu'il perpétue la symphonia byzantine, c'est-à-dire l'église et l'État se conseillant l'un l'autre. Donc ça, c'est un premier élément. Évidemment, sa réforme est exprimée dans une encyclique inaugurale qui détonne dans la situation, qui est assez démoralisante. Il y fait un tableau déplorable de la situation morale du peuple et sa tentation de se convertir à l'islam pour des raisons matérielles ou au catholicisme pour des raisons politiques aussi. Il déplore la désaffection des sacrements. Il déplore les péchés nombreux, bon, on reconnaîtra les thèmes importants de l'époque tardive byzantine, et il exhorte le peuple à la repentance. Il promeut des prescriptions morales et il explique que, de manière abrupte, il n'y a pas de possibilité de se sauver sinon par le martyr. Alors, cette encyclique déplaît, elle cristallise contre lui toutes sortes de personnes de bonne volonté qui essaient de trouver une issue raisonnable, réaliste pour la population, pour les biens, pour les personnes, ce que Siméon ne voit absolument pas. Alors on pourrait croire qu'il est abrupt et qu'il reste dans son monde. Il entreprend une réforme canonique. Il faut savoir que l'archevêque est président du tribunal ecclésiastique et qu'il a, c'est un peu le juge de paix de l'ancien régime en France, où, c'est-à-dire qu'il va essayer de trouver des solutions en ce qui concerne les alliances matrimoniales. Et là aussi, il y a un énorme problème, c'est que les alliances matrimoniales, bon, au niveau du petit peuple, c'est peut-être, on a peu de traces, mais au niveau des grandes familles, il s'agit d'intérêts majeurs, d'intérêts politiques, d'intérêts économiques, et Siméon refuse les mariages entre familles apparentées par le baptême, c'est-à-dire avec un degré de parenté charnelle nul, mais un degré de parenté spirituelle important. Et cette trace de rigorisme va rester dans le code qui va administrer la vie du peuple grec pendant la période ottomane, l'ottomanocratie, sous le code d'Arménopoulos, où ces empêchements canoniques de mariage vont perdurer jusqu'au début du XXe siècle, voire plus, dans certaines familles. Donc c'est dire que Siméon a laissé des traces. Alors à l'époque, il faut savoir que cette décision canonique de Siméon est très mal prise et que les Thessaloniciens font appel au patriarche de Constantinople qui casse la décision puisqu'il la trouve trop rigoureuse. Et enfin, on peut dire que sa grande réforme, c'est une rénovation du rite cathédral, c'est-à-dire que ce rite cathédral dont j'ai parlé à propos des offices de vêpres et de matines, il va l'étendre à la restauration des processions, c'est-à-dire une liturgie stationale, où l'on se promène de grande église en grande église, avec la descente de l'évêque, avec des prières de circonstance pour l'épidémie, les sièges, tremblements de terre. Donc il va essayer de rendre liturgique la vie politique de sa cité. Voilà ce qu'on peut dire dans son œuvre qui est très importante. Alors évidemment, il est assez rude, hein, puisque très vite, toute opposition est faite par des clercs négligents, paresseux et assédiastes, hein, donc souffrant d'assédie. Et il entend, bien sûr, relever cet éclat. Alors pourquoi aussi cet intérêt pour la liturgie ? C'est qu'il pense que c'est une manière aussi de soutenir l'Empire. C'est une manière... Alors c'est le paradoxe. L'Empire va disparaître, mais en même temps, resterait la liturgie qui a caractérisé l'Empire byzantin et qui a permis aux Slaves leur conversion quand ils ont vu l'office de Sainte-Sophie. Pour lui, c'est un intérêt, pourrait dire... de propagande dans des termes plus latins, mais c'est une manière de propager la foi et de témoigner de l'apostolicité de cette tradition et de son ancrage dans les réalités de l'Empire.
Il reste 2 minutes pour parler de sa canonisation qui est arrivée très tard, en 1981, plusieurs siècles donc après. Juste 2 minutes, on n'a pas le temps d'expliquer toutes les raisons, mais pourquoi on a pensé si tard à quelqu'un qui a tellement compté dans l'Église ?
La première raison, c'est que 6 mois après sa mort, la ville de Thessalonique est prise par les Ottomans, qui vont étranger sa dépouille mortelle en signe politique, puisqu'il a été l'âme de la résistance à la reddition aux Turcs, ce qui aurait permis un règlement pacifique hein, de la situation, il ne faut pas l'oublier, alors que là, il y a eu des déportations et ça a été assez tragique. D'autre part, le patriarcat de Constantinople s'est intéressé à œuvrer pour l'union des églises par le biais du concile de Florence à cette époque-là, et Siméon s'y oppose de manière extrêmement farouche. Donc c'est un auteur qui n'est pas, à la fin de l'Empire, jusqu'en 1453, qui n'est pas tout à fait apprécié, qui ne fait pas l'unanimité. Il sera redécouvert et par Marc d'Éphèse après le concile de Florence, où on retrouvera les mêmes thématiques et les mêmes idées. Et c'est pendant la période ottomane que ces écrits vont circuler, plus ou moins anonymement. Et c'est à l'occasion du congrès d'Athènes en 1926 avec Jugi, qui déclare que l'hésychasme est mort, que va naître un désir de voir les traces d'un hésychasme populaire que l'on retrouvera dans les œuvres de Siméon.
Donc, une canonisation donc, qui date de l'année 1981.
Et qui est liée aux apports de la philologie qui ont permis d'exhumer, de donner une biographie complète qui va être la biographie officielle du patriarcat.
Et le renouveau général des spécialistes pour le mouvement palamite, pour l'hésychasme, etc., dans lequel il est inscrit. Alors, Père Sébastien, merci beaucoup. C'était la première émission sur Saint-Siméon de Thessalonique. On vous retrouve dans 15 jours pour reparler de son œuvre. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Manuel Couturier. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.